France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à quelle heure ?
22h pour l'actualité du disque des musiques d'aujourd'hui.
Est-ce que vous en êtes sûr ?
Oui.
Alors on écoutera ensemble la musique d'Aurélien Dumont, de Pierre Henry ou encore celle de Jörg Winman.
Et on commence par une berceuse qui va certainement vous rappeler quelques souvenirs.
Thank you.
Le Vegan Lead, est-ce que vous l'avez reconnu? Vous avez reconnu
une ombre? J'ai cru entendre passer un peu de Brahms.
Oui, c'est la musique de Jörg Widmann, mais la berceuse de Brahms est le fantôme qui plane sur cette œuvre. Ce Vegan Lead, cette berceuse, elle fait partie des quatre intermédies écrits par le compositeur allemand. Et encore une fois, ce titre intermédie fait référence à Brahms puisqu'il laisse beaucoup de pièces sous ce nom. Jörg Widmann a écrit 5 intermédies pour piano pour Andras Schiff qui les joue ici. Donc c'était en 2010. Le pianiste et le compositeur sont des amis de longue date et ce n'est pas un hasard s'il choisit de faire référence à la musique de Brahms car Andras Schiff, tout comme lui, est passionné par l'œuvre du compositeur romantique. J'aimerais entendre cette sonorité du Brahms tardif dans mes propres intermédies, nous dit Jörg Widmann, et pouvoir ainsi honorer Brahms, mon amour de jeunesse à qui Schumann jeta longtemps de l'ombre. Et le jeu d'Andras Schiff a inspiré Widmann, tout autant que la musique de Brahms. Il dit qu'il a essayé d'écrire une partie de piano vraiment chantante. Pendant des années, je n'ai pas osé composer une pièce qui chante si librement. C'est très mélancolique et il avait fait un peu le même travail, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années autour de Schumann justement. Il dit que c'est un de ses autres amours. Autour notamment des contes de fées.
Pour le label ECM peut-être
Non, c'était Mirios.
Parce que là j'ai cru reconnaître une prise de son ECM.
Ah là c'est ECM, absolument. Il y a d'ailleurs aussi au programme de ce disque les 2 sonates pour clarinette et piano de Johannes Brahms. Et c'est donc notre disque de la semaine.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
On reçoit beaucoup de disques Jörg Widmann et il y en a un sur lequel, Émilie, vous vouliez revenir.
Un disque qui est d'une toute autre esthétique pour vous faire entendre aussi les multiples visages de ce compositeur. C'est un concerto pour alto créé par Antoine Tamestit et l'Orchestre de Paris en 2015 et enregistré par la suite. Extrait du concerto pour alto de Jörg Widmann, Antoine Tamestit, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Daniel Harding. C'est un disque sorti il y a quelques années et pour la nouveauté, donc, ce sont les intermezzi avec Andras Schiff.
Alors j'ai une question difficile pour vous, Émilie.
Ah, dites-moi tout.
Est-ce que vous savez combien de symphonies a composé Beethoven ?
J'hésite.
Dites-moi.
Moi, je vais dire 9.
Bravo. Eh ben, figurez-vous que ça a bien contrarié Pierre-Henri. Il aurait adoré que Beethoven en compose 10. Eh bien, c'est lui, c'est ce qu'il va faire. Il va la composer, cette 10e symphonie. Pierre-Henri va en laisser plusieurs versions de cette 10e symphonie à la manière de Pierre-Henri, c'est-à-dire sur bande magnétique, puis à l'électroacoustique. Mais il va aussi rêver d'une autre version pour cette 10e symphonie, une version symphonique. Et c'est le résultat de ce disque. De manière posthume, voici donc la version symphonique de cette 10e symphonie Beethoven vue par Pierre-Henri. On la doit au travail de Marie et Bernard Bonnier, puisque de son vivant, Pierre-Henri ne laissera pas cette version. Beethoven, mieux que Messiaen, m'a appris à composer en analysant ses partitions. Leur graphisme si riche, si pictural, si dynamique, me semblait entretenir une parenté secrète, mais réelle, avec la musique concrète. Alors je ne sais pas si on peut dire vraiment qu'il y a de la musique concrète chez Beethoven. En tout cas, il y a un peu toutes les symphonies dans la 10e. Vous allez entendre, c'est une œuvre assez curieuse. Je ne suis pas sûr que ce soit là que Pierre-Henri soit le plus intéressant du côté de la musique symphonique. On préfère quand il y a des entrechoquements, on va dire, électroacoustiques. Mais voici donc le résultat. Il a fallu pour ça plusieurs orchestres aussi pour jouer cette 10e symphonie de Pierre-Henri. C'était la 10e symphonie de Pierre-Henri. Alors évidemment, 10e symphonie de qui ? De Beethoven, sans doute. L'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Pascal Roffet, Bruno Mantovani, Marzena Diakoun, Richard Wilberforce. Et il faut tous ces chefs-là pour cette 10e symphonie, parce que l'orchestre est spatialisé, d'accord. L'orchestre philharmonique de Radio France, pour donner aussi peut-être cet aspect électronique à cette musique. Émilie.
Oui, Rodolphe, on parlait de l'ensemble 2E2M il y a quelques semaines après avoir appris la disparition de son fondateur Paul Méfano. Le voici, interprète de la musique d'Aurélien Dumont. Cet ancien élève de Gérard Pécian a été pensionnaire à la Villa Médicis entre 2017 et 2018. Et ce nouveau disque est lié à son séjour romain. On y trouve 3 œuvres, une écrite en 2017 et 2 remaniées en 2018. C'est le cas de Flaque de Miette, une œuvre écrite en 2008 et donc remaniée l'année dernière. Ce sont de petits mouvements qui n'ont ni réel commencement ni réelle fin, et le point de départ et le nombre de mouvements sont laissés au choix du chef d'orchestre. Donc il y a ces 10 petites briques sonores qui sont déterminées par l'interprète. Des briques, nous dit-on dans le livret, qui constituent des bulles de potentiel narratif. C'est donc une histoire qui prend vie en direct, qui se construit face à nous et qui a à chaque fois sa propre personnalité. Un objet sonore toujours renouvelé que l'on découvre dans cette version de l'ensemble 2E2M dirigé par Pierre Roulier.
Thank you.
Flaque de miettes d'Aurélien Dumont. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite flaque?
Du titre ou de la musique?
Cette grande flaque.
Ah ben, il y en a
d'ailleurs,
partout.
Oui. C'est l'ensemble de The 2M dirigé par Pierre Roulier. C'est la musique d'Aurélien Dumont. Il y a deux autres pièces sur ce disque. Et l'ensemble de The 2M, on les retrouve dans le cadre du Festival aux Armes Contemporains à La Scala à Paris, samedi prochain, donc le 10 octobre à 21h, aux côtés de Noémie Schindler, Nathanaël Gouin et Raphaël Sévère.
En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Alors Émilie, je voulais vous signaler un beau disque, Ricercata, qui présente les œuvres de Shostakovich, Ligeti et Stockhausen. Alors ils sont tous morts, donc on va pas s'apesantir longtemps sur ce disque dans notre En Piste contemporain. Mais c'est un disque exigeant et c'est aussi très bien porté par le pianiste Mario Prisuelos, pianiste espagnol engagé pour la musique de son temps. Il avait enregistré l'œuvre de Thomas Marco et voici la Musica Ricercata de Ligeti. Vous avez entendu quelle note?
Attention. Elle est bien ou pas?
Ouais, c'est pas mal. C'est donc un ré qui arrive après tous ces la, cette déferlante de la dans la Musica Ricercata de Ligeti, interprétée ici par Mario Prisuelos.
Une compositrice, chanteuse, danseuse, chorégraphe, cinéaste et metteur en scène. C'est l'américaine Meredith Monk, 77 ans, artiste inclassable. La critique veut souvent d'ailleurs l'attacher au courant minimaliste de Steve Reich ou Philip Glass, mais ça ne lui convient pas. Elle veut être son propre courant à elle toute seule. Et son nouvel opus, Memory Games, regroupe 9 pièces, écrites depuis le début des années 80 et réorchestrées par le groupe Bang on a Can All Stars. C'est un collectif new-yorkais qui a été fondé à l'époque par 3 artistes qui comptent énormément sur la scène alternative et underground américaine. Michael Gordon, Julia Wolf, qui est une compositrice dont je trouve les œuvres assez passionnantes et j'aimerais vous faire entendre bientôt ses œuvres. Elle est prix Pulitzer. Et le troisième larron du groupe, il est aussi prix Pulitzer et c'est le plus connu certainement, David Lang. Alors lui, attaché au courant minimaliste. Et je vous ai diffusé la saison dernière son opéra Anatomy Theater. Meredith Monk travaille avec le collectif depuis un moment. Dans les années 80, elle a participé à leur grand marathon musical, donc organisé annuellement. Et ils ont aussi beaucoup collaboré par la suite, même si elle précise que leurs sensibilités sont assez différentes. Quand je vous dis qu'elle veut être attachée à absolument personne, c'est vraiment le cas. C'est une danse de la mort que nous allons écouter, une Totentanz arrangée par David Lang.
Thank you.
Meredith Monk, arrangée par David Lang, et c'était la Totentanz, c'est le groupe Bang on a Can All Stars qui reprend sa musique, des titres donc écrits depuis les années 80, et c'est un disque qui s'appelle Memory Games. Et vous, de votre côté, Rodolphe, vous avez découvert un label?
Mais oui, un tout petit label australien, Modern Recording, passionnant, tout nouveau, pour l'instant que 9 disques au catalogue, et la philosophie de ce label est à mi-chemin entre le jazz, la création musicale et la musique électronique. Il laisse une grande part aux interprètes compositeurs. Alors il y a quelques noms que l'on connaît bien mais que l'on découvre sous une autre facette. Saviez-vous par exemple que Christian Järvi, grand chef d'orchestre, était également compositeur de musique?
Alors vous savez qu'il dirigeait beaucoup la musique de ses contemporains, oui. Mais non, pas qu'il écrivait.
Et du coup on n'est pas forcément surpris de l'entendre de ce côté-là, mais il écrit une musique mixte qui mêle l'énergie de l'orchestre aux grandes nappes sonores électroacoustiques. Paysage nordique est le titre de cet album. Alors Järvi nous invite à une balade vers ses origines. Il nous dit « Dans ma propre musique, j'ai atteint le point où l'électronique n'est pas un effet exotique, mais plutôt une partie élémentaire de la carte acoustique. Notre époque est maintenant numérique, nous devons donc y faire face de manière artistique. » J'ai trouvé que c'était très réussi pour une belle découverte. De toute façon, Christian Järvi, c'est quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission. Mais donc, on découvre ici le compositeur. Voici une œuvre qui s'appelle « Aurora ». Thank you. Et vous avez peut-être découvert Christian Järvi, compositeur, n'est-ce pas, Émilie ?
Ah oui, je connaissais pas.
Je sais que vous aimez bien le chef, mais voici le compositeur avec ses paysages nordiques. Une musique à mi-chemin entre le répétitif américain et
le cinéma un peu.
Le cinéma totalement, et puis les grandes nappes sonores du Nord. Je ne sais pas si vous aimez les grandes nappes sonores.
Si, bien sûr.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est le journal de la création au programme aujourd'hui.
Ce soir, nous partons à Nîmes, Paris et Lille. Il y aura des nouveaux Requiem, des jours de gloire. Et en exclusivité, nous vous révélerons l'œuvre pour faire aimer la musique contemporaine à vos proches. Alors non, ce n'est pas le Requiem de Mozart qui va faire aimer la musique contemporaine à vos proches, quoique.
Ouais, pourquoi pas.
Car notre création de la semaine, c'est Clara Olivares qui offre la première de Lebevol, demain, 5 octobre, dans la grande salle de la Philharmonie de Paris. L'orchestre de chambre de Paris, dirigé par Lars Vogt, a eu l'idée de présenter une œuvre en prélude directement enchaînée au Requiem de Mozart. Avouez que c'est un vrai défi. C'est la jeune compositrice franco-espagnole Clara Olivares qui relève la gageure. À 27 ans, elle est la vedette de la saison de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et elle a une particularité. Émilie Rodolphe, est-ce que vous avez un des cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, particulièrement développé? Est-ce que vous avez un don extraordinaire comme Clara Olivares?
L'odorat, non. Ça, c'est sûr.
Ah, moi je pense que c'est l'odorat.
C'est
ouais,
le Covid?
Ouais, peut-être. Enfin, j'espère pas, mais en tout cas, ça fait longtemps. Alors, ça fait longtemps que je l'ai.
Bah mince. Alors, je vous pose la question, car Clara Olivares est synesthète comme Olivier Messiaen. Elle voit les sons et les formes en couleur. La compositrice qui a fait ses études à Strasbourg et en Californie est doublement à l'affiche cette semaine, puisque l'Orchestre de Chambre de Paris donne également lors d'un déjeuner-concert, attention à l'horaire, c'est à 12h30, ce jeudi 8 octobre, une seconde pièce orchestrale, Blue Spine, au Théâtre du Châtelet. La pièce est donc basée sur sa vision du bleu. Clara Olivares est une nouvelle voix à découvrir. Les concerts ont lieu ce lundi à la Philharmonie et ce jeudi au Théâtre du Châtelet par l'Orchestre de Chambre de Paris.
Les festivals aujourd'hui, Laurent, vous nous emmenez où ?
À Nîmes, une ville dont on parle trop peu, mais on est très heureux d'appeler Pascal Berthelot, directrice artistique d'un nouveau festival à Nîmes qui s'appelle Les Volcs, qui nous donne trois bonnes raisons d'aller à Nîmes. Bonsoir Pascal Berthelot.
Bonsoir Laurent. Donc trois bonnes raisons. Découverte du répertoire au travers des siècles grâce à une immersion dans l'univers de deux grands compositeurs pendant 4 jours. Ludwig van Beethoven et Philippe Manoury. Le quatuor Tintio avec électronique ou évidemment les deux grandes sonates pour piano solo. Deuxièmement, rencontre des publics proches et éloignés dans la circulation entre les lieux emblématiques de la ville et les lieux associatifs. Troisième bonne raison de venir nous écouter, l'accessibilité à ce répertoire réputé savant, facilité par la présence in situ des artistes et compositeurs invités et de la présentation des œuvres sous forme active d'interviews ou de rencontres ouvertes au public.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Le festival Les Volcs de Nîmes se tient du 8 au 11 octobre à Nîmes.
Et on fera bientôt d'ailleurs un carrefour de la création Philippe Manoury. Je crois que Corinne Schneider va aller à ce festival et rencontrer Philippe Manoury sur place.
L'actualité des concerts est très riche cette semaine à Paris. Il y a tout d'abord une intrigante création au Festival d'automne, le vendredi 9 octobre, à l'église Saint-Eustache, par un duo de poètes-compositeurs, Alessandro Bozzetti et David Christoffel. Un oratorio qui s'appelle Consensus Partium. Tous les amateurs de poésie, de voix parlée et de musique doivent se précipiter à l'église Saint-Eustache. Et Rodolphe, maintenant je me tourne vers vous, car vous aussi vous faites l'actualité, puisque vous êtes le programmateur d'un grand festival à la Scala de Paris, aux armes contemporaines,
notre star,
qui
se tient du 9 au 12 octobre. Alors
mais
Rodolphe,
oui,
on va faire la même formule que pour les autres festivals.
Ah, moi aussi, il faut que je vous donne trois bonnes raisons de venir à la Scala Paris.
Est-ce que vous
pourriez nous
donner trois bonnes raisons, voilà.
D'abord parce qu'il va y avoir plein de jeunes interprètes engagés pour la création. On pense à Nathanaël Gouin, Raphaël Sévère ou le Quatuor Hanson, parce qu'il y a une soirée américaine, et je sais que vous aimez aussi le répertoire américain.
Et je serai là.
À George Crumb ou Meredith Monk. Et puis parce qu'il va y avoir aussi un hommage à Paul Méphano par l'ensemble 2E2M. Paul Méphano qui nous a quittés il y a peu, et donc l'ensemble 2E2M fera une grande soirée en hommage à Paul Méphano.
Vous êtes très efficace, Rodolphe.
Ah.
La salle de la Scala se trouve dans le 10e arrondissement de Paris et le festival Aux Armes Contemporains se tient du 9 au 12 octobre.
La rubrique Pourquoi composez-vous, Laurent, aujourd'hui ?
On est très honoré d'avoir cette semaine un grand nom de la musique européenne, le basque Ramón Lascano, joué par les plus grands ensembles, qui est l'auteur d'une musique très profonde et d'un incroyable raffinement. Bonsoir Ramón Lascano.
Bonsoir.
Pourquoi composez-vous ?
Alors, je pense que je compose afin de survivre, peut-être, parce que la création n'est pas une thérapie pour moi. Elle vous écartèle, elle vous écorche. Mais composer me permet de trouver une place, disons, utile dans le monde, de m'offrir et d'offrir ce que je ne pourrais peut-être pas montrer autrement qu'à travers la matérialisation d'un son que je porte à moi. Un son qui est peut-être un son d'un rêve d'enfance.
Merci beaucoup, Ramon Lascano.
Merci beaucoup à vous tous.
Émilie Rodolphe, j'ai promis au début du journal de révéler l'œuvre qui fera aimer à vos proches la musique contemporaine. Alors c'est une expérience vécue. Est-ce que vous-même, vous avez déjà réussi à convaincre des amis réfractaires par une œuvre magique ?
Ah oui.
Dites-nous alors, Émilie.
Ah, moi par Philippe Ersan. Figurez-vous.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Vous m'en avez souvent parlé.
Je vous ai souvent dit que ça a fait aimer la musique contemporaine à des proches autour de moi.
T'es très proche.
T'es
vous,
très proche, oui.
Alors moi, il y a la musique qui agace, mais la musique qui, je dirais
qui
celle de, ouais, de Takemitsu. Une pièce pour deux pianos, qui est un peu de Debussy, ça passe bien.
Alors moi, c'est du vécu. Ça fait 10 ans que j'emmène un ami au concert. Et donc, pour la première fois...
Il est fidèle, hein.
En entendant l'œuvre dont je vais parler, il s'est dit que la musique contemporaine, c'était génial.
Au bout de 10 ans.
Oh, bah mince. Donc, l'œuvre en question est jouée par Le Balcon ce jeudi 8 octobre à l'Opéra de Lille. Et c'est Professeur Bad Trip de Fausto Romitelli que j'ai entendu le mois dernier à Manifest par l'United Instrument of Lucilline. Avec son alliance de rock et de musique spectrale, Professeur Bad Trip est une œuvre à la fois très exigeante et totalement accessible.
Et vous préférez pas Index of Metal, vous ?
Ah, c'est possible aussi, ce sera le deuxième concert.
Ah ouais, parfait.
Donc pour tous les Lillois, si vous souhaitez faire découvrir la musique contemporaine à un proche, précipitez-vous ce jeudi au concert du Balcon à l'Opéra de Lille. Et donc on se quitte avec un court extrait de Professeur Bad Trip, Lesson 2, de Fausto Romitelli. De Professeur Bad Trip de Fausto Romitelli.
Merci Laurent, bonne soirée et à la semaine prochaine. Les à-propos d'Antoine Berland, la musique continue. Il s'est amusé à improviser sur un piano mécanique en piteux état trouvé à Calais, figurez-vous cette fois-ci. Donc il continue ses petites explorations de piano.
Il en trouve des pianos, dis donc.
Il en trouve, je ne savais pas qu'il y avait autant de pianos abandonnés et abîmés. Le voici, le voilà, c'est piano mécanique, hashtag 1.
Les à-propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son lit.
Je crois que c'est bon là.
Oui.
Les à-propos.
Et bon pour tout le monde.
Antoine Berland.
Oui.
Thank you.
C'est bien un piano, ou en tout cas ce qu'il en reste. Piano mécanique, c'était les à-propos d'Antoine Berland.
Merci à l'équipe de ce soir. L'émission réalisée par Claire Lagarde avec Philippe Mercher, Xavier Attaud et Pauline Boisaubert.
À réécouter sur francemusique.fr.